Troisième partie. Chapitre 1. Un matin, Adrienne était depuis 5 jours à la maison grise, que Jules devait quitter le lendemain, appelé dans la localité voisine pour une affaire concernant sa profession. Un matin, en se réveillant, M. Romanel se sentit indisposé et manda Mlle Célanie auprès de lui. Elle accourut. Alarmée, elle parla de faire chercher immédiatement le docteur, mais après délibération, comme son père avait horreur des remèdes de pharmacie et qu'il n'éprouvait qu'un léger malaise, accompagné de lassitude, on se décida à essayer tout d'abord une tisane qui, de temps immémorial, avait fait miracle dans la famille Romanel. « Envoie-moi Clovis, il me tiendra compagnie, » dit le vieillard quand sa fille s'éloigna. M. Clovis était bien le plus sympathisant des gardes-malades. Avec une inaltérable complaisance, il s'apitoyait, s'inquiétait, encourageait et savait parler ou se taire suivant l'humeur de son malade. Ses pantoufles à semelles de lisière ne faisaient jamais craquer le plancher. Ses yeux bienveillants ne voyaient pas les incorrections d'une chambre en désordre, n'avaient pas, comme tant d'autres yeux, l'air de dire, en s'arrêtant sous les rideaux, « Vous n'êtes pas à votre avantage dans ce lit. Que vous voilà, plus vieux et plus décrépit que je ne croyais ?» Toujours sa bonne figure d'un rose flétri gardait son sourire et il trouvait des phrases pour vous persuader que rien n'est plus sain que d'être malade de temps en temps. « Tu gardes donc la chambre aujourd'hui ?» dit M. Clovis en s'asseyant au pied du lit, de façon à ce que son cousin pût le voir et l'entendre sans se déranger. « Tu as raison, il pleut, tu ne perds rien à ne pas descendre. Les deux petites vont joliment s'ennuyer si ce temps-là persiste. » « Combien de temps ton neveu sera-t-il absent ?» demanda le grand-père. « Peut-être un jour, peut-être deux, il ne sait pas. Il doit voir l'ingénieur en chef de la ligne et ses messieurs du conseil d'administration. » Il y eut un moment de silence que M. Romanel rompit tout à coup en disant avec une grande énergie « Clovis, ton neveu me plaît !»« J'en suis fort heureux !» s'écria M. Clovis tout épanoui. « Et Adrienne, comment la trouves-tu ? Charmante, n'est-ce pas ?» Mais le vieillard agita la main avec impatience. « Ne parlons pas d'Adrienne. Je te dis que ton neveu me plaît. Et si je le dis, j'ai mes raisons. » « Assurément, assurément !» fit M. Clovis, qui se reprochait déjà d'agiter son malade. Il vit que la lumière tombait sur le lit et se leva pour arranger le rideau des pérepses verts. « Laisse ce rideau. Qu'as-tu donc toujours à tracasser comme une vieille femme ?» dit M. Romanel d'une voix querelleuse, se soulevant sur son coude et tournant péniblement la tête pour suivre des yeux le cousin derrière son chevet. « On cause, on croit que tu écoutes. Pas du tout. Te voilà en l'air. » Il était irrité de ce que M. Clovis ne lui eût pas demandé quelle raison. C'était là qu'il aurait voulu l'amener. Sans répondre à cette algarade, M. Clovis vint se rasseoir et se mit à balancer son pied tout doucement. « Et Zoé, comment trouve-t-elle son cousin ?» reprit le grand-père au bout d'un moment, tapotant l'édredon de ses doigts secs pour attirer l'attention de M. Clovis. Celui-ci tressaillit au ton particulier de cette question et M. Romanel, voyant son intention comprise, fit des yeux un signe affirmatif. « Oui, oui, je te demande comment elle trouve ton cousin. J'ai mes raisons, j'ai mes raisons. » Il se mit à rire et à tousser en même temps, perdant haleine, le pauvre vieux, dans des efforts spasmodiques pour mener à bien ce rire et cette toux. Au milieu de l'accès, Mlle Célanie entra avec la tisane et M. Romanel, qui trouvait un plaisir de vieillard à faire de petits mystères, dit à sa fille, aussitôt qu'il put parler, « Va-t'en bien vite, Célanie, j'ai à causer avec le cousin. Nous avons nos petites affaires qu'on te dira peut-être comme tu as l'âge de raison. 7 ans, Célanie. Mais qu'est-ce que cela, 7 ans? Nous te trouverons encore un mari. » « Je n'aime pas ces plaisanteries, mon père !» dit Mlle Célanie en rougissant faiblement. « Si Célanie avait voulu de moi, la chose serait faite depuis longtemps, » dit M. Clovis, très grave, et s'inclinant vers sa cousine, qui soupira, haussa un peu les épaules et sortit. N'aurait-elle pas pu sourire au lieu de soupirer ? Mais si Mlle Célanie avait souri, elle n'eût plus été Mlle Célanie. Cette excellente fille, toute pétrie de bons principes et de vertus, n'avait jamais eu ni esprit ni gaieté, et c'était avec les années qu'on fit en mélancolie. Mélancolie d'une teinte gris tendre, qui n'avait rien d'incommode, qui, dans les grandes et les petites occasions, pouvait très bien passer pour de la sympathie sans coûter aucune douleur, pour un reproche sans l'ennui de le formuler, et qui berçait l'indolence de l'esprit avec un air de prendre la vie plus au sérieux que le reste des mortels. Sottise, fit le grand-père quand sa fille eut disparu. Tu vas me la rendre encore plus sentimentale qu'elle n'est. Et qu'aurais-tu fait d'elle, s'il te plaît? Tu avais bien 60 ans et elle 50 lorsque tu as commencé à y penser. Non, non, tu es mieux comme tu es. J'ai eu 3 femmes, je peux t'en donner des nouvelles, moi. Tu es libre de tes actions et ton argent, tu peux le laisser à qui tu préfères. Il s'arrêta, ayant mis la conversation dans ce courant qu'il espérait bien lui voir suivre. Il avait son idée. Par malheur, M. Clovis n'y entra pas. Il se contenta de hocher doucement la tête, entrelaçant ses doigts de 36 manières autour de son genou, comme s'il eût cherché un mode nouveau de tresser des corbeilles. « Je crois qu'elle le trouve très bien, » dit-il enfin, revenant à l'entretien interrompu. « Ils sont bons amis. »« Zoé est ton neveu ?» Ils ont sans cesse quelque chose à se dire. Jules est un excellent jeune homme, sérieux, solide, grand travailleur, dit M. Clovis en s'animant. Il fera son chemin. Pour ma part, si la chose pouvait s'arranger, si leurs sentiments étaient d'accord, j'en serais trop heureux. Nous sommes vieux, nous pouvons manquer d'un instant à l'autre. J'aurais voulu voir encore cela avant de m'en aller, voir notre Zosette en bon chemin de ne pas manquer sa vie comme sa tante, comme moi, pour ce qui est de ça. » Sa voix, en prononçant le petit nom affectueux qu'il avait donné à Zoé, s'émut de tendresse et ses yeux s'humectèrent. « Mais enfin, dit le grand-père, elle ne t'est rien, cette enfant, ou presque rien, une petite cousine au 4e degré. » « C'est mon petit oiseau, » dit M. Clovis à demi-voix, comme s'il se parlait à lui-même. « Elle n'aura rien de toi après ta mort, à moins que tu n'aies fait un testament. Mais tu ne saurais léser de vrais neveux et nièces. Y as-tu songé seulement, Clovis, y as-tu songé? À ton âge, on doit mettre ses affaires en ordre. Sois tranquille, c'est fait. » Il y eut un moment de silence après ce mot. M. Clovis, renversé dans son fauteuil, repassait en esprit d'un air méditatif ses dispositions testamentaires et M. Brutus Romanel se demandait si son cousin l'avait peut-être nommé exécuteur. Cette attention lui aurait fait plaisir. « Pauvre Clovis, il nous manquera beaucoup quand il n'y sera plus. Songez cet immortel de 98 ans. » Puis, avec la ténacité de son esprit aussi lucide qu'autrefois et plus obstiné, il revint à son point de départ. « Je ferai volontiers quelque chose pour ton neveu. Voilà un jeune homme qui a besoin d'être lancé. Il faut de l'argent pour se lancer. Tiens, il me parlait l'autre jour de ses projets. Il disait que l'avenir est à l'électricité. Les locomotives, ce n'est plus cela. Je les aurais vues naître et mourir, les locomotives. En faisait-on assez de fracas au commencement? Mais pour le quart d'heure, c'est l'électricité qui tient la corde. » Oui, mais pour monter des ateliers d'appareils ou pour faire des entreprises, il faut de l'argent. Aurais-tu l'intention de lui en prêter? Demanda M. Clovis. Moi, fit le grand-père avec quelque âpreté, tu sais bien que je ne prête que sur hypothèque, c'est mon principe. Qu'est-ce que c'est que leur électricité? Un fluide, à ce qu'ils disent. On n'hypothèque pas un fluide. Belle garantie qu'un fluide, ma foi. « Ne t'excite pas, Brutus, ça t'est mauvais, » dit son cousin inquiet. « Mais c'est toi, tu causes et tu ne me laisses pas dire ce que je veux dire. Ce garçon est ton neveu, n'est-ce pas, et tu aimes Zoé autant que si elle était ta fille? Ce que je fais pour le garçon qui me plaît, c'est de lui donner Zoé, et toi tu leur donnes, à l'un et à l'autre, de la main à la main, ce que tu proposais de leur donner par testament. » C'est simple et c'est équitable, et l'impôt sur les successions n'a rien à y voir. Parfaitement. Voyons, qu'en dis-tu? Mais, fit M. Clovis en se caressant le menton, comme la chose m'est entièrement nouvelle, il faudra que j'y réfléchisse. Oh, réfléchis-y, réfléchis-y. Quoique, à ton âge, moins on perd de temps, mieux cela vaut. Le vieillard se souleva avec impatience, bouscula ses oreillers, puis se tourna du côté de la muraille. « Et maintenant, je te demanderai de me laisser seul. Sois dit sans reproche, tu m'as beaucoup fatigué. » Resté seul dans l'obscurité calmante de ses rideaux verts, il se reprit à sourire complaisamment au projet né dans son esprit, son dernier projet, car il n'en ferait plus après celui-là, se disait-il. Il le mènerait à bien et puis se reposerait. Une semaine auparavant, il se fâchait si l'on traitait Zoé de jeune personne. Aujourd'hui, il voulait la marier. C'était naturel. N'ayant pas été le premier à s'apercevoir que sa petite fille grandissait, et vexé de s'être montré moins clairvoyant que Clovis sur ce point, il avait voulu le devancer sur un autre. On dirait à l'entendre que lui seul s'inquiète de l'enfant, de son avenir, et il croit avoir tout fait en amenant ici son étourdie de nièce, qui rit sans cesse et dérange les chaises parce qu'elle prétend que la symétrie n'est plus à la mode. Tandis qu'il baguenaude, je tire les conséquences, moi, et je dis, puisque Zoé est devenue une jeune personne, il faut la marier. Clovis, lui, n'a pas songé à cela. Non, non, avec tous ses beaux discours, il est resté en route. Il y avait une autre raison, c'est que Jules Maurier, discret, posé, écoutant à merveille et parlant avec tact, avait gagné dans l'estime du vieillard une place très haute et réveillé chez lui une fibre presque paternelle. M. Romanel voulait du bien à ce jeune homme. Il était décidé à le pousser, à influencer en sa faveur les intentions testamentaires de M. Clovis, et la combinaison, qui, des intérêts opposés de Jules et de Zoé, ne faisait qu'un seul et même intérêt, lui semblait merveilleusement ingénieuse. Après cela, Clovis dira peut-être qu'il ne veut pas se dépouiller de son vivant. Zoé fera la renchérie, et Jules... Non, Jules a du bon sens, mais il faut s'attendre à tout. Dans ce cas, ils seront des sots. Après avoir tourné et retourné dans sa tête maintes pensées, il sonna. Ce fut Mademoiselle Célanie qui répondit à cet appel. « Bon, fit son père, c'est toi que je voulais. Assieds-toi et écoute. » Ce ne fut pas long. En moins d'un quart d'heure, elle sut sa leçon sur le bout du doigt. « Pauvre Mademoiselle Célanie !» Toute frémissante d'émoi et d'intime ravissement, elle écoutait les yeux humides, elle souriait d'un sourire mouillé, et son visage s'animait, et ses mains se pressaient l'une contre l'autre, avec un petit geste extasié. Ah, c'est qu'une amourette était son pain béni à la pauvre âme. Elle en avait eu dans son temps trois ou quatre, dont il ne lui était resté qu'une feuille de lierre, une petite rose en sucre, et le plus tendre souvenir. Sa disposition sentimentale s'était fort accrue dans le Brandebourg, et elle l'avait rapportée à la maison grise quand elle était venue, vieille fille de 50 ans, s'y établir pour soigner son père. Mais elle s'en cachait soigneusement, craignant les railleries. Elle avait appris à vivre sans autre épanchement que ses fréquents soupirs et n'avait jamais fait de Zoé sa confidente par réserve d'institutrice, peut-être aussi parce que Zoé n'aimait pas la poésie. C'était avec Flore qu'elle s'entretenait des mariages d'alentour et par la vieille servante bien informée qui causait avec le facteur, avec le cantonnier, la fermière. Elle savait toutes les histoires d'amour et quels parents étaient impitoyables, quelle fillette avait pleuré à la fontaine, quel garçon était de dépit parti pour le Texas. Son regret perpétuel était de ne pouvoir se mêler un peu à ces choses palpitantes, elle qui, volontiers, se serait faite la bénisseuse de tous les couples soupirants. Et voilà que, dans la maison même, allait naître le délicieux mystère, et qu'elle pourrait le voir, le toucher, et qu'elle y aurait sa part. Rien n'était fait. Les chers enfants ne se doutaient encore de rien. De rien, tu es la première à en savoir un mot. Ah, je suis certaine que leur cœur parle déjà, mais ils n'osent pas encore se l'avouer à lui-même. Possible, tâche de débrouiller à quoi ils en sont. Clovis prétend qu'ils ont sans cesse quelque chose à se dire. Oui, mais des choses indifférentes. C'est ainsi que cela commence. Plus tard, ils se parleront moins, une pudeur les tiendra éloignés l'un de l'autre. M. Romanel considéra sa fille avec un sourire un peu sarcastique, mais il ne dit rien, craignant de refroidir un zèle qui servait ses plans. Mademoiselle Sélanie s'en alla avec la bénédiction de son père et l'injonction de ne pas faire de maladresse par excès d'empressement. Il lui était permis de mettre Flore dans la confidence si elle le jugeait utile. Soulevée au-dessus de terre par une douce exaltation, Mademoiselle Sélanie flotta vers les régions de la cuisine. « Où sont nos jeunes gens, Flore ? » demanda-t-elle d'une voix presque gaie. « Chez les Voumard, Mademoiselle Adrienne regardait tomber la pluie et avait l'air de s'ennuyer comme une morte. Alors, je lui ai proposé d'aller tourner la baratte. C'est le jour du beurre, justement, ça la distraira. « Monsieur Jules, est-il avec les jeunes filles ?»« Fiez-vous à lui pour ça. Il ne les lâche guère, à moins qu'il ne soit à causer avec monsieur, qui en semble étonnamment coiffé. » « Flore !» dit subitement Mademoiselle Sélanie. Flore regarda sa maîtresse et vit un rayonnement dans ses yeux bleu clair, sur son haut front poli, et quelque chose d'envolé, de frissonnant, dans les rubans de son bonnet. « Eh bien, qu'arrive-t-il » cria-t-elle. Puis, soudain éclairée, « Un mariage !»« Pas encore, pas encore !» répondit Mademoiselle Sélanie en hochant la tête. « Quand on songe à tout ce qui peut survenir, nous sommes d'accord et les enfants s'aiment, c'est trop beau pour durer. Il arrivera quelque chose. » « Et que voulez-vous qu'il arrive ? Vous sonnez toujours la cloche 8 jours avant l'enterrement. » « Zoé peut tomber malade, ou supposons que M. Jules perde un bras ou une jambe dans un accident. Un ingénieur s'est très exposé, » dit mélancoliquement Mademoiselle Sélanie. Elle aimait le léger émoi, le petit battement de cœur que lui procuraient ses lugubres hypothèses. « Supposons que le ciel tombe sur le pays, ce serait la fin de tous les mariages, » dit Flore en haussant les épaules. « Vous dites qu'ils s'aiment, ça leur a donc poussé plus vite que la rougeole. Voyons, mademoiselle, là, franchement, est-ce que vous n'y mettez pas un peu du vôtre ?»« Flore, votre familiarité va décidément trop loin, » fit sa maîtresse offensée en se dirigeant vers la porte. « Ça se peut, » dit Flore. C'était sa façon de reconnaître qu'elle avait eu tort. Mais en même temps, elle se promettait d'ouvrir les yeux et de faire de son côté ses petites observations.